France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est sans doute la relation la plus célèbre de toute l'histoire de la littérature moderne. Elle n'aura duré qu'un peu moins de 4 années, entre le moment où les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois, en septembre 1871 à Paris, et le jour où ils se revirent pour la dernière fois, à Stuttgart, en février 1875. Quelques années d'une existence partagée entre Paris, la Belgique et Londres, faite de passion, de tourments, de reniements et de repentirs. Dans le poème qu'il écrivit en 1888, alors qu'à Paris une rumeur circulait quant à la mort de Rimbaud, Verlaine appelle ces quelques années communes « le roman de vivre à deux hommes ». En 1951, dans une série de 8 émissions consacrées à l'auteur du Bateau ivre, Francis Carco le retraçait pour les ondes de la radiodiffusion française. Et pour commencer, dans les 3 premiers volets que nous vous proposons cette nuit, il en présentait les 2 principaux protagonistes.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carco de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Morane et Jean Topard prêtent leur concours à cette première émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
Le 20 octobre 1854, Jean-Arthur Rimbaud naissait à Charleville, dans la maison de son grand-père maternel, 6 au numéro 12 de la rue Napoléon. Il était fils de Frédéric Rimbaud, capitaine d'infanterie, et de Vitalie Cuif, dont le ménage assez mal assorti devait être pour l'enfant prétexte au plus pénible malentendu. Ne parlons pas encore du poète. Du grand et prodigieux poète que fut Rimbaud. Sa première narration, datée de 1864, nous éclaire néanmoins sur le trait dominant de son caractère. Le refus de souscrire aux conventions établies avant lui ou sans lui, de se plier aux lois, à la morale courante. Pourquoi s'informe-t-il à prendre du grec, du latin? Je ne le sais. Enfin, on n'a pas besoin de cela. Que m'importe à moi que je sois reçu? À quoi cela sert-il d'être reçu? À rien, n'est-ce pas? Si, pourtant. On dit qu'on a une place que lorsqu'on est reçu. Moi, je ne veux pas de place. Je serai rentier. C'est souvent par leur mère qu'on explique les poètes. Celle de Baudelaire l'a hanté toute la vie d'une tendresse équivoque, dont aucune fille n'a pu le délivrer. Celle de Verlaine, par sa touchante faiblesse, est en grande partie responsable des excès, des folies, des erreurs, des malheurs de son Paul. Enfin, Edgar Poe, qui vit morte sur un lit d'hôtel borgne dans ses habits de comédienne, la misérable créature qu'il avait mise au monde, contracta une passion si maladive pour toutes celles dont la pâleur d'apparition lui rappelait cette femme, que ses chefs-d'œuvre en sont ensorcelés. Pour Arthur, il en allait différemment. Madame Rimbaud était une femme d'ordre, de principe, à qui le mariage n'avait guère apporté que les difficultés, les soucis et les charges d'une famille dont le père vivait éloigné dans quelques villes de garnison. Cette absence d'un homme au foyer obligeait la motère, comme l'appelle Arthur, avec un mélange de rancune et de crainte, à se montrer moins tendre qu'autoritaire. Fille de petits cultivateurs de l'arrondissement de Vouziers, Vitalie Cuif avait un sens borné peut-être, mais pratique des choses. Et pourtant devait-elle écrire à Verlaine, après les coups de revolver qu'il tira sur Arthur et qui le firent incarcérer à la prison de Mons, « Moi aussi, j'ai été bien malheureuse. J'ai bien souffert, bien pleuré. Et j'ai su faire tourner toute cette affliction à mon profit. Dieu m'a donné un corps fort, rempli de courage et d'énergie. J'ai lutté contre toutes les adversités. Et puis j'ai réfléchi. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, le vrai bonheur consiste dans l'accomplissement de tous ses devoirs, si pénibles qu'ils soient. » Ne nous en tenir sur sa mère qu'aux allusions défavorables d'Arthur nous empêchait d'être juste envers elle. N'accusons donc pas la motère d'avoir manqué de discernement. Son attitude envers Verlaine est pleine de dignité. Sans cette rigueur dont il dut subir constamment la contrainte, le futur auteur du bateau ivre n'aurait peut-être point accumulé dans son âme les douloureux refoulements qui décidèrent de son génie. Écoutez-le plutôt. Il avait alors 15 ans quand il composa ce poème.
La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent, frileux. Leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux. Et la nouvelle année, à la suite brumeuse, laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, sourit avec des pleurs et chante en grelottant. Or, ces petits enfants, sous le rideau flottant, parlent bas comme on fait dans une nuit obscure. Ils écoutent pensifs comme un lointain murmure. Ils tressaillent souvent à la claire voix d'or du timbre matinal qui frappe et frappe encore son refrain métallique en son globe de verre. Puis la chambre est glacée. On voit traîner à terre et part autour des lits des vêtements de deuil. L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits-enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié le soir, seule et penchée, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, d'amonceler sur eux la laine et l'édredon, avant de les quitter en leur criant pardon. Votre cœur l'a compris, ses enfants sont sans mère, plus de mère au logis. Et le père est bien loin.
Le père, il était officier en Afrique. Arthur, qui l'admirait, qui l'enviait, et qui déplorait en même temps de ne point l'avoir près de lui pour prendre sa défense contre l'inflexible motère, Arthur, comme c'est normal, n'aspirait qu'à lui ressembler. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui, la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Jamais, peut-être, fixation ne se manifesta de façon plus formelle. Par amour de son père et par haine, le mot n'est pas trop fort, de sa mère, Rimbaud se préparait ainsi à l'aventure qu'il devait entreprendre dans la seconde moitié de sa vie, après 20 jours de cheval, précise-t-il, dans le désert somali. Pour le moment, c'est un potache, mais révolté, un bon élève à sa manière, que ses maîtres s'étonnent de trouver si précoce. L'un d'eux, Georges Isambard, devient même son ami. La classe finie, écrit-il, il lui arrivait souvent de m'attendre à la sortie pour me reconduire jusqu'à ma porte. Il me remettait des vers tout frépondus, mais toujours recopiés et calligraphiés avec amour. Cela ne l'empêche point de se réfugier, comme le rapporte Delahaye, dans une carrière abandonnée des environs de Charleville, où il passait quelquefois des semaines sans donner signe de vie. Loin de la motère et des reproches qu'elle n'aurait point manqué de lui faire pour l'obliger à retourner en classe, Arthur s'estimait pleinement heureux. « Apporte-moi chaque jour un morceau de pain, » disait-il à Delahaye. « Il ne m'en faut pas davantage. De cette façon, je serai libre. » Il affirmait avec la même sérénité, « Moi, ce qui fait ma supériorité, c'est que je n'ai pas de cœur. » En février 71, lors de sa seconde fugue à Paris, Delahaye rapporte qu'Arthur avait entraîné à sa suite une jeune fille qu'il finit par abandonner après avoir dormi plusieurs nuits sur un banc. « C'est elle, » écrit Delahaye, « qui avait ses yeux violets chantés par le sonnet des voyelles. » Mais Rimbaud n'aimait guère qu'on lui rappelât cette équipée. Il devenait sombre chaque fois que quelqu'un y faisait allusion devant lui et le regardait d'un air dur. Pas de cœur. Ces deux strophes que Jacqueline Moran va vous dire sont datées cependant de mars 1870.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme.
Tel est à l'origine le drame d'Arthur Rimbaud. C'est celui de l'adolescence. Le poète s'écrira plus tard au souvenir de ses premières désillusions, « L'amour est à réinventer ». On l'imagine, place de la gare à Charleville, errant le soir à l'aventure. Il n'a que 17 ans, ses instincts le gouvernent, il voudrait pouvoir les dominer, les juguler.
Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pente à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont officieux cornacs, celles dont les volants ont des airs de réclame. Le long des gazons verts ricanent les voyous, et rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi je suis débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes, elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles. Je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres.
Pareil tableau n'offrait évidemment aucun charme à ce garçon qui se sentait déjà si différent des autres. Il ne joue pas les chérubins. Le portrait qu'en a fait la femme de Verlaine nous le montre au contraire, sous un jour peu avantageux. Avec sa tignasse en désordre, ses grosses pattes rouges, ses vêtements trop courts et ses souliers à clous, Arthur, affirme-t-elle, avait l'air sournois d'un jeune échappé de maison de correction. Voilà pourtant le type même du poète tel qu'on peut de nos jours se le représenter. Quel travail, constate-t-il. Tout à démolir, tout à effacer dans ma tête. Ah, il est heureux, l'enfant abandonné au coin d'une borne, élevé au hasard, parvenant à l'âge d'homme sans aucune idée inculquée par des maîtres ou par une famille. Neuf, net, sans principe, sans notion, puisque tout ce qu'on nous enseigne est farce, et libre, libre de tout. Voilà tout un programme qui devait le mener dans sa lettre fameuse à Paul Demny du 15 mai 1871 à serrer de plus près les aspirations, à condenser ses rêves. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que la quintessence, ineffable torture, où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Comment une telle nature aurait-elle pu s'adapter à l'esthétique et aux mœurs de l'époque? Elle ne s'adaptait pas, voilà tout. La première fugue d'Arthur est du 29 août 1870. Le jeune homme qui a bazardé ses livres de prix prend un billet pour Mohan, puis se cache dans le train qui l'emporte vers Paris. Son intention était d'assister, de prendre part à l'écroulement de l'Empire. Mais un contrôleur passe et le fait conduire à la prison de Mazas, où il est écroué pour n'avoir pu fournir l'appoint de 13 francs qui restait dû sur le billet à la compagnie des chemins de fer. Arthur écrit à Isambard, et celui-ci acquitte la dette de son élève, le fait remettre en liberté, le recueille même chez lui, à Douai, puis le renvoie dans sa famille, d'où le fugueur s'enfuit 10 jours plus tard, mais cette fois par la route, à Charleroi d'abord. Et finalement à Bruxelles. On le suit à la trace.
Dans la salle à manger brune que parfumait une odeur de vernis et de fruits, à mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets belge et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge, heureuse et quoi. La cuisine s'ouvrit avec une bouffée. Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichue moitié défait, malinement coiffée. Et tout en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant de sa lèvre enfantine une moue, elle arrangeait les plats près de moi pour m'aiser. Puis, comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser, tout bas. Sans don, j'ai pris une froid sur la joue.
Ma bohème, qu'il rime lors de cette escapade, qui devait s'achever par un second renvoi dans sa famille, est d'une fraîcheur, d'une espièglerie désarmante. Elle ne possède pas encore cette bouleversante et bouillonnante exaltation dont son lyrisme est imprégné, mais elle l'annonce, elle le laisse pressentir.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.
Or, son maître Isambard n'enseignant plus à Charleville, Arthur passe ses journées à la bibliothèque municipale, où il lit coup sur coup tout Proudhon, tout Babeuf, Saint-Simon, et rédige un projet de constitution communiste dont le texte s'est perdu. Un employé aux contributions directes nommé Bretagne l'initie entre-temps à l'occultisme. Bretagne avait connu Verlaine autrefois à Paris, ce qui lui conférait parmi ses relations un indiscutable prestige. Bien que Verlaine n'eût encore publié que les poèmes saturniens, les fêtes galantes et la bonne chanson, Rimbaud s'était procuré ces ouvrages en les dérobant froidement à l'étalage d'un libraire. Une lettre à Isambard en fait foi. Bretagne offrit alors de recommander Rimbaud à Verlaine et Rimbaud, comme on pense, accepta d'enthousiasme. Un premier essai tenté le 24 mai 1870 auprès de Théodore de Banville n'avait point obtenu de succès. N'y a-t-il point dans cette démarche comme un besoin de protection? Le jeune Arthur aurait pu épater ses camarades, mais non. C'est d'abord à un homme, son professeur, dont l'autorité remplace à ses yeux celle du père absent, qu'il s'adresse. Et Isambard l'accueille, lui prête des livres, en cachette de la Montaire. C'est lui bien plus qu'il engage à écrire à Banville. Pour suppléer à la carence du père, Arthur s'efforce, gauchement sans doute, de reconstituer sur le plan spirituel une seconde famille dont il convoite d'être agréé. Sensation que vous avez entendue tout à l'heure est le poème Ophélie, figuré parmi les manuscrits soumis au jugement de Banville.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des Hallalies. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aulne qui dort quelque nid d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or.
N'insistons pas. Qu'importe après tout que Banville n'ait point décelé dans ses strophes la secrète palpitation d'une sensibilité de poète dont Hugo devait dire plus tard « Shakespeare, enfant ». Verlaine, lui, ne s'y trompa point. « Venez, chère grande dame, on vous attend, on vous désire », répondit-il à la lettre d'Arthur. Il est vrai que cette lettre contenait d'autres vers d'un caractère, d'un relief plus personnel, plus vigoureux, et que dans l'intervalle de 15 mois qui séparent ces envois, le génie de Rimbaud s'est brusquement affirmé. Sa mère, après la piteuse escapade de Mazas, l'avait repris. « Monsieur, écrit-il à Georges Isambard, et il spécifie à vous seul. Je suis rentré à Charleville, un jour après vous avoir quitté. Ma mère m'a reçu, et je suis là tout à fait oisif. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre, et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas? Mais je resterai, je n'ai pas promis cela, mais je le ferai pour mériter votre affection. Vous me l'avez dit, je la mériterai, ce sans-cœur de Arthur Rimbaud. Peut-être était-il nécessaire pour la cristallisation même de sa farouche individualité qu'Arthur rongea ainsi son frein. Certaines crises de l'adolescence déterminent souvent des réactions qu'une longue patience ne favoriserait pas. Sa promesse à Isambard, comme il s'en vante, Arthur ne l'a point cependant tenue jusqu'au bout. En effet, le 25 février 1871, nous le retrouvons dans les rues de Paris, où il rôde sans savoir à quelle porte frapper. On compte qu'il échoua finalement rue de Babylone, dans une caserne. Mais qu'il dut y subir tant de brimades de toute espèce, qu'il décida de regagner Charleville à travers les lignes ennemies, en se faisant passer pour franc-tireur auprès des paysans qui le recevaient dans leurs granges. Authentique ou non, cet épisode correspond assez bien au poème « Le cœur volé » qu'il composa sous le toit maternel à son retour parmi les siens. Ces vers qu'Arthur joignit à ceux qu'il recopia pour Verlaine éblouirent leur destinataire.
Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal, ils y lancent des jets de soupe, mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibets de la troupe qui pousse un rire général, mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ityphaliques et pioupiesques, leurs colibets l'ont dépravé. Au gouvernail, on voit des fresques ityphaliques et pioupiesques. Oh, flots abracadabrantesques, prenez mon cœur qu'il soit lavé. Ityphaliques et pioupiesques, leurs colibets l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir? Au cœur volé. Ce seront des hoquets bachiques, quand ils auront tari leur chic, j'aurai des sursauts stomachiques. Moi, si mon cœur est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir? Au cœur volé.
Mais il y a mieux. Un souvenir, peut-être. La présence dans une clairière d'un soldat mort lui inspire le dormeur du Val, où dès le début de la guerre, le voyant qu'il était, atteint à cette rare perfection d'un art qui sait déjà tout dire, tout suggérer.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Thank you.
Tout de suite, le deuxième volet de cette série d'émissions diffusée pour la première fois en mars 1951.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carco de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Moran, Jean Topard, Yvonne Schaeffer, Lucien Paris et Paul Morin prêtent leur concours à cette deuxième émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
Dans une lettre du 13 mai 1871, adressée à Georges Isambard, Rimbaud, qu'un long dérèglement des sens prépare à la voyance, écrit « C'est faux de dire « je pense ».« Je » est un autre. Formule magique. Toute la poésie moderne lui doit son renouvellement. Arthur, que Bretagne faisait boire, est initié non seulement à l'occultisme, mais à la pratique des stupéfiants, ne manqua pas d'en user sans retenue. Un nouveau monde, ou plutôt un monde nouveau, s'ouvrait devant ses yeux. Un monde dont il multipliait les mirages, reculait les limites, jusqu'à ne plus savoir où elles se prolongeaient. Sous cet angle, le sonnet des voyelles n'a rien perdu de sa force de révélation. Mais n'anticipons pas, les chercheuses de poux constitue également une des grandes réussites du lyrisme rimbaldien.
Quand le front de l'enfant plein de rouge tourmente implore les seins blancs des rêves indistincts, il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes avec de frêles doigts aux ongles argentins. Elles assoient l'enfant devant une croisée grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs, et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée, promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs. Il écoute chanter leurs haleines craintives, qui fleurent de longs miels végétaux et rosés, et qu'interrompt parfois un sifflement, salive reprise sur la lèvre, ou désir de baiser. Il entend leurs cils noirs battant sous les silences parfumés, et leurs doigts électriques et doux font crépiter parmi les grises indolences, sous leurs ongles royaux, la mort des petits poux. Voilà que monte en lui le vin de la paresse, soupir d'harmonica qui pourrait délirer. L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.
À Charleville, il avait fini, à l'en croire, par provoquer d'atroces résolutions d'une mère aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb. Elle a voulu, s'exclame Arthur avec indignation, m'imposer le travail. Travailler maintenant ? Jamais. Jamais je suis en grève. Je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète. Dans ces conditions, il n'était pas douteux qu'en faisant irruption dans la vie de Verlaine, Rimbaud en troublerait la placide, apparente et bourgeoise platitude. En effet, c'est le 10 septembre 1871 qu'Arthur débarque du train et se présente rue Nicolet. Le 7 juillet de l'année suivante, il part avec Verlaine. Le soir de leur première rencontre, Rimbaud était tranquillement installé dans le salon où Mathilde, alors enceinte, essayait de l'apprivoiser en s'informant de sa famille, de ses projets, tandis qu'avec sa figure rougeaude, son pantalon trop court, Arthur ne se mettait nullement en frais de conversation. Rien n'indiquait qu'il fût l'auteur de ces vers extraordinaires que Verlaine lisait à tout le monde.
Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Milotus, un œil à la lucarne, d'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'arne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à lance d'un pot blanc à ses reins largement retroussés sa chemise. Or il s'est accroupi, frileux, les doigts de pied repliés, grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioches aux vitres de papier, et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle au rayon tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lip au ventre. Il sent glisser ses cuisses dans le feu et ses chausses roussir et s'éteindre sa pipe. Quelque chose comme un oiseau remue un peu à son ventre serein comme un morceau de tripe. Autour dort un fouillis de meubles abrutis, dans des haillons de crasse et sur de sales ventres, des escabeaux crapauds étranges sont blottis au coin noir, des buffets ont des gueules de chantre qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite, le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite. Et parfois, en hoquet fort gravement bouffon, s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font au contour du cul des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond.
Ah, Verlaine n'est pas là, s'était borné à grommeler Arthur lorsque Mathilde lui avait annoncé que son mari devait être à la gare, où il était allé à son devant. Tant pis, je vais l'attendre. Il était arrivé, note Mathilde, sans aucun bagage. Les biographes de Verlaine ne manquent jamais d'insister sur le premier dîner que Rimbaud prit rue Nicolet. Son mutisme, il fut absolu, sauf, pourtant, vers la fin, quand Arthur, caressant le chien de la maison, affirma sur un ton sibyllin « Les chiens sont des libéraux ». Pourquoi chercher un sens à cette phrase ? Déjà, il était trop tard pour changer quoi que ce fût aux événements. Une sorte d'accord tacite est conclu entre les deux hommes. Que désignant par la suite Verlaine, Arthur laisse échapper « J'ai aimé un porc » ne modifie en rien sa part de responsabilité dans le drame qui commence. Celle de Verlaine non plus. D'ailleurs, quel est le coupable ? On peut admettre que si Verlaine n'avait point écrit à Rimbaud « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend », la chère grande âme serait restée à Charleville, au risque de se replier sur elle-même, de crever de rage, d'impuissance. Mais Verlaine pouvait-il ne pas répondre au poète des effarés, de accroupissement, des douaniers, du cœur volé, des assis ? Le mariage l'avait déçu. Son contact quotidien avec sa belle famille lui donnait la nausée. Il étouffait dans ce milieu qui ne correspondait à aucune de ses aspirations. Sans Rimbaud, il était perdu. La chance a donc voulu qu'à cet instant critique pour lui, un gamin de génie, un potache, qui suffoquait par ses allures les habitants de sa ville natale, ait eu l'idée de lui soumettre ses élucubrations. Ceux à qui jusqu'alors Rimbaud s'était adressé n'étaient point désignés pour capter le message contenu dans ses vers. Ils n'appartenaient pas à la même race. Ils ne présentaient aucune affinité avec l'enfant terrible qui écrivait au dos des bancs de la promenade « Mort à Dieu » en s'attendant peut-être à ce que la terre s'arrêtât de tourner. Pouvait-il, en dehors de la forme, comprendre quelque chose aux signaux de détresse lancés par ce garnement prodigieux ? C'eût été trop leur demander. Or, Verlaine attendait, désirait anxieusement ce message. Aussi, dès que Rimbaud paraît, le sort de Mathilde est réglé. Paul la repousse, elle et l'enfant qu'elle porte. Il a tout oublié de leur passé, de leur amour récent. Sa rancune vient de loin.
La peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu, écu le front cerclé de cuivre sous la lune, adoré dans la Perse un génie inconnu, impétueux, avec des douceurs virginales et noires, fier de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères, pleurs de nuits estivales qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur largement irrité. Et plein de la blessure éternelle et profonde, se prend à désirer sa sœur de charité. Mais, ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité, jamais. Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigts légers, ni seins splendidement formés. Aveugle irréveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui penses à nous, porteuse de mamelles. Nous te berçons, charmante et grave passion. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et tes brutalités souffertes autrefois, tu nous rends tout, ennui pourtant sans malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme portait un instant l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action, viennent la muse verte et la justice ardente le déchirer de leur auguste obsession. Ah, sans cesse altéré des splendeurs et des calmes, délaissé des deux sœurs implacables, geignant avec tendresse après la science aux bras almes. Il porte à la nature en fleurs son front saignant. Mais la noire alchimie et les saintes études répugnent aux blessés, sombres savants d'orgueil. Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes. Alors est toujours beau, sans dégoût du cercueil, qu'il croit aux vastes fins, rêve ou promenade immense, à travers les nuits de vérité. Il t'appelle en son âme et ses membres malades. Ô mort mystérieuse, ô sœur de charité.
Dans le dessein perfide mais savoureux de nous faire juge du climat qui régnait chez les Mottet, Verlaine n'a d'ailleurs pas manqué de brosser cette scène. On tire les rois chez les Beautrouillard. Le père, entendez le beau-père de Verlaine, une magnifique calotte de drap d'or un peu de côté sur sa tête chauve, barbe de mania polonais, des yeux matois. La mère, digne femme, trop bonne. Celle-là, le poète l'a toujours respectée. Un gendre un peu éméché, plus une vieille demoiselle de la campagne. Voici qu'on parle littérature. Oui, oui. Et on ne s'entend plus. Dommage. C'était si beau, madame, si rare, mosquieux. Ce ménage patriarcal, cette calotte d'or, ce père de famille tout blanc qui tutoie son gendre, un peu éméché. En effet, la parole est à la vaisselle, maintenant. Prends garde à la glace, au moins, dit le doux beau-père. Tiens, vieux fourneau, clic. Tiens, birbinfecte, clac. Cette fois, la suspension a péri. Les deux filles et madame aiment la bonne à nettoyer, ramasser. La parente de la campagne reste d'ailleurs impassible. Mademoiselle, lui dit madame, agréez nos excuses, cela n'arrive jamais. Ce tableau de famille nous donne un aperçu des joies que le gendre un peu éméché, comme de bien entendu, savourait chez ses beaux-parents. On s'explique mieux dès lors son attitude à l'arrivée de Rimbaud. Si Mathilde avait eu tant soit peu de sensibilité, de tact, elle se serait refusée à loger sur le toit de son cher papa. Mais c'était une nature médiocre qu'il avait éprouvée de son mariage, qu'une satisfaction de vanité. Si je n'ai compris ni l'intelligence ni le talent de Verlaine, pourquoi l'ai-je épousée? Et sarcastique, elle va jusqu'à s'informer pour sa beauté ou pour son argent. Sur ce point, Rimbaud a répondu, toujours seul, sans famille. Arthur était pourtant passé par les transes que tous les garçons de son âge traversent. Et il les avait décrites dans ses vers adorables.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête, on divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent des cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs et de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Trêve de plaisanterie. Entre Verlaine et Rimbaud, il s'agissait bien d'autre chose. Comme s'ils s'étaient reconnus, tous deux se mettent, dès le lendemain, à sortir de compagnie, à s'enivrer abominablement. Paul ne s'en cache pas. « Moi, si je bois, c'est pour me saouler, non pour boire », a-t-il proclamé sans vergogne. L'absinthe, l'absonthe, comme l'appelle Rimbaud, les illumine. C'est le plus délicat et le plus tremblant des habits que l'ivresse, par la vertu de cette sauge de glacier, confesse Arthur à son ami de La Haye. Mais pour, après, se coucher dans la merde. J'ignore s'il alla jusque-là. Cependant, un jour qu'il regagnait seul la rue Nicolet, Verlaine découvrit Rimbaud qui dormait ivre-mort dans la cour, au milieu des poubelles. Quelle vie!
La vraie vie est absente!
Quoi?
C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable.
Voleur de feu! Poète!
Il faut être voyant.
Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouvez une langue.
Voici le temps des assassins.
Vous avez entendu. Verlaine devait lui-même écrire à mi-chemin de la voyance et du plus affreux désespoir.
Pitoyable frère.
J'ai dans la tête des routes dans les plaines suaves, des vues de Byzance.
Non, non, Verlaine.
Je suis assis lépreux sur les pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil.
J'ai dit Verlaine.
Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu. Un instant à la fois très grave et très aigu. Oh, ce soleil parmi la brume qui se lève. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes. Un lent réveil après bien des métempsycoses.
Au réveil, il était midi.
Les deux amis s'entendaient à merveille. Un soir, de général aux Français, où l'on représentait l'abandonné de Copé, ils firent scandale en s'exhibant aux bras l'un de l'autre. Et Verlaine, de retour chez lui, s'écria d'une voix pâteuse en désignant Mathilde réveillée en sursaut. « La voilà bien, ah, l'abandonné !»«
Paul, c'est ignoble! Au secours !»
Rimbaud, dont Mathilde avait exigé le renvoi de la rue Nicolet, habitait rue Campagne Première, où Forain, qui signait ses premiers dessins à Gavroche, partageait sa chambre avec lui. Verlaine le voyait en cachette. Plus tard, Arthur alla loger rue de Bussy, où Banville lui avait loué une mansarde. « Il y avait sous ma fenêtre étroite, » écrit Arthur à Delahaye. À 3 heures du matin, la bougie pâlit. Tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres. C'est fini. Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisi par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs d'un lycée absolument sourd. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombereaux sur les boulevards. C'est l'heure de se saouler chez les marchands de vin, pour moi. Il travaillait pourtant, il écrivait le bateau ivre, tout en accumulant les scandales dont le moindre, par exemple, fut celui provoqué par les coups de couteau qu'au cours d'un dîner d'artistes, il fallut l'empêcher de porter au photographe Carja. Au quartier latin, à Montmartre, partout les mêmes scènes. Ceux qui le connaissaient se récitaient peut-être ce sonnet.
Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns, fortement pommadée, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés, puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent deux mots gravés, Clara, Vénus. Et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement. D'un ulcère à l'anus.
Toutefois, en mars 1872, pour permettre à Verlaine de faire la paix avec Mathilde, Arthur quitte Paris et retourne chez sa mère, qu'il expédie à Roche, dans les Ardennes, dans une maison de campagne que possédait sa famille. « Quelle chérie !» écrit Rimbaud. « Il faut le soir faire 2 heures et plus pour boire un peu. La motère m'a mis là dans un triste trou. » De son côté, Verlaine, ne pouvant supporter cette séparation, engage Arthur à revenir. Il lui avait conseillé dans une lettre faire en sorte, au moins quelque temps, d'être moins terrible d'aspect qu'avant. Linge, cirage, peignage, petite mine, ceci nécessaire, si toi entrer dans projet tigresque. Moi d'ailleurs, lingère, brosseur, etc. Salut, revoir, joie, attente de lettres, attente de toi. Rimbaud lui garde de le laisser se morfondre plus longtemps.
Tout de suite, le troisième volet de cette série d'émissions diffusée pour la première fois en mars 1951.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carcot de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Moran, Jean Topard, Hubert Prélier et Claude Romain prêtent leur concours à cette troisième émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
S'il existe deux sortes de poètes, les sédentaires et les vagabonds, ou, si l'on veut emprunter le terme à Rimbaud, les assis qu'il a rudoyés et les autres, c'est de ces autres qu'il fait partie. La malédiction de n'être jamais là le poursuivit jusqu'à la mort. Mais écoutez.
Noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leur fémur, le sinciput plaqué de hargnosité vague, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leur fantasque ossature au grand squelette noir de leur chaise. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans cette tresse d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, verts pianistes, les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour.
Il n'est pas de cette espèce, au contraire. Son tempérament le lui interdit. Rappelez-vous ses fugues, ses vagabondages sur les routes, ses voyages dans la nuit, et toujours d'où qu'il revint, toujours prêt à repartir. Verlaine l'a surnommé l'homme aux semelles de vent. L'image est saisissante. Paris, qu'il n'a fait qu'entrevoir pendant le siège, lui inspire ses vers pathétiques. Ce n'est pas à travers les vitres de fenêtres bien closes qu'il le décrit, mais d'en bas de la rue, sous la bise, ou par quelques carreaux crevés.
Oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité sainte assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà les maisons sur l'azur léger qui s'irradient et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans des niches de planches, l'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches.
Tout vit et vibre, éclate et grouille dans ce poème, si l'on peut dire incandescent. Jamais encore Rimbaud n'avait accumulé plus de force, d'amour, de frénésie dans la vision qu'il a du monde, ni fait preuve d'une plus grande, d'une plus poignante exaltation. On y entend comme des craquements lugubres, des ronflements de flammes, des cris, des rires, des hurlements, des plaintes, et tout à coup, magnifié par le génie, cet andante désespéré.
Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau, ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes, cité que le passé sombre pourrait bénir, corps remagnétisé pour les énormes peines, tu rebois donc la vie effroyable, tu sens sourdre le flux des vers livides dans tes veines, et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants. L'orage te sacra suprême poésie. L'immense remuement des forces te secourt. Ton œuvre bout, la mort gronde. Cité choisie, amasse les strideurs au cœur du clairon sourd. Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits. Et ces rayons d'amour flagelleront les femmes, ces strophes bondiront, voilà, voilà, bandit. Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards. Et les gaz en délire aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards.
Entre eux aussi, je veux dire entre Verlaine et Rimbaud, tout fut instantanément rétabli dès que ce dernier, cédant aux supplications de Paul, revint de Roche au printemps 1872. Il s'installa rue Monsieur le Prince, puis rue Victor Cousin, et les anciennes folies reprirent de plus belle. On n'a que trop parlé de leur liaison scandaleuse. Eux-mêmes ne s'en sont point privés. Pourtant, il est possible, d'après les protestations tardives de Verlaine, que les choses n'aient pas eu lieu comme on les racontait. Qu'on l'entende comme on voudra, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez rien aux choses, bonnes gens. Je vous dis que ce n'est pas ce que l'on pensa. Peu importe, il n'en demeure pas moins acquis que le roman de vivre à deux hommes, mieux que n'ont pas d'époux modèle, Arthur et Paul l'ont bel et bien vécu. Mais qui donc a débauché l'autre? Qui a fait la première avance? Pour ma part, j'inclinerai à croire, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'entrait dans l'esprit de Rimbaud aucune basse intention, mais que, livré cédant, il céda sans trop de surprise, ni peut-être de déplaisir, à la force des circonstances. L'histoire du cœur volé l'y avait sans doute préparé. Quant à Verlaine, une aventure spéciale avec un jeune cousin mort à la guerre créait un précédent. Sa laideur qu'il prétend socratique et ne cesse d'évoquer pour se justifier n'est point non plus étrangère à sa conception de l'amour. Ajoutez à cela l'éblouissement que tous deux éprouvèrent en même temps, à se compléter, à être fait comme on dit l'un pour l'autre, et vous comprendrez mieux qu'ils se soient si spontanément accordés. Il s'agit, ne l'oublions pas, des deux plus grands poètes de la fin du XIXe siècle. Rimbaud n'a pas 18 ans, Verlaine en a 27. Ils font équipe, un goût d'immodéré de boire, de stupéfier le bourgeois, d'afficher leur mépris de tout, de braver l'opinion, d'accepter tous les risques, les rapproche encore davantage. Chez Arthur, on l'a vu, la nécessité de devenir voyant fait partie d'un programme. Il est le grand maudit, le grand malade, voire le grand criminel, ce sont ses propres termes. Encore tout enfant, proclame-t-il, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour. Je flairais sa fatalité dans les villes. Je me voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'il n'ait pu comprendre, et pardonnant comme Jeanne d'Arc. Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Et Verlaine suit aveuglément. C'est vrai qu'il était faible, facile à entraîner, mais quel poète!
Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue, qui grince mal assis entre ses quatre roues et roule ses yeux verts et rouges lentement. Les ouvriers allant au club tout en fumant leur brûle-gueule au nez des agents de police. Toi qui dégoûtes, mur suintant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout. Voilà ma route, avec le paradis au bout.
Par malheur ou par bonheur pour lui, Rimbaud se trouvait sur cette route.
Même le crime est un moyen. Allez, tu viens, avance.
Oh, n'exagère pas, le crime. T'es pas fou?
Oui, mais la folie, elle aussi, entre dans mon système.
Ah oui?
Oui.
Mais où mènes-tu?
Loin, très loin, au bout de la nuit.
C'est idiot, on n'y voit plus. Là, tout près, ce qui brille, c'est la Seine.
Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. Sous tes ponts qu'environne une vapeur malsaine, bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris, dont les âmes avaient pour meurtrier Paris.
N'aie pas peur. Je suis là.
Je n'ai pas peur, mais je voudrais savoir où nous allons. Quelle idée, cette promenade sur les berges. Il est tard.
On s'en fout.
Toi, peut-être. Mais j'ai une femme, j'ai un enfant, une belle famille.
Il faudra dépasser cela.
La nuit, la pluie, un ciel blafard que des chiquettes de flèches et de tours à jour. La silhouette d'une ville gothique éteinte au lointain gris. La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris, secoué par le bec avide des corneilles, et dansant dans l'air noir des gigues non pareilles, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups. Quelques buissons d'épines épars et quelques houx, dressant l'horreur de leur feuillage à droite, à gauche, sur le fuligineux fouillis d'un fond d'ébauche. Et puis, autour de trois livides prisonniers qui vont pieds nus, un gros de hauts pertuisaniers en marche, et leurs fers droits comme des fers de herse luisent à contresens des lances de l'averse.
Tu vois ? Cette ville sous la pluie, tu l'as tirée de l'ombre, du néant. Et comme toi, j'écrirai des silences, des nuits. Je noterai l'inexprimable. Je fixerai des vertiges.
Oh, Rimbe, ça va. Je n'en peux plus.
Ils erraient ainsi jusqu'à l'aube. Puis Rimbe allait se saouler avant de regagner sa chambre, la conscience tranquille, laissant Verlaine rentrer chez lui en zigzagant. Un poème d'Arthur l'émerveillait, si différent pourtant de tout ce qu'il avait lui-même écrit jusqu'à présent, qu'il sentait un abîme s'ouvrir tout à coup sous ses pas. Est-ce alors qu'il prit l'habitude de s'habiller par pause, dira Mathilde, comme un ouvrier ?
Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres que l'été de Tana, mains pâles comme des mains mortes, sont-ce les mains de Juana ? Ses mains n'ont pas vendu d'orange ni bruni sur les pieds des dieux. Ses mains n'ont pas lavé les langes des lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousines, ni d'ouvrières au gros front que brûle au bois puant l'usine un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses d'échines, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus forte que tout un cheval, remuant comme des fournaises et secouant tous ses frissons. Leur chair chante des Marseillaises et jamais des Eleisons. Une tache de populace les brunit comme un saint d'hier. Le dos de ses mains est la place qu'en baisa tout révolte et fier. Elles ont pâli merveilleuses au grand soleil d'amour chargé, sur le bronze des mitrailleuses, à travers Paris insurgé. Ah, quelquefois, oh, main sacrée, à vos poings, main où tremblent nos lèvres jamais désenivrées, crie une chaîne aux clairs anneaux, et c'est un soubresaut étrange dans nos êtres, quand quelquefois on veut vous déhaler, main d'ange, en vous faisant saigner les doigts.
Nous sommes loin des préciosités des fêtes galantes, des effusions de la bonne chanson. L'accent viril d'Arthur, son lyrisme sans bavure, ses envolées, ses hardiesses de mots, d'images, exercent sur Verlaine une sorte de fascination. Rimbe en a conscience. Aussi loin de s'apitoyer sur le sort de pauvre Lélian, il le mène au pas de charge vers les cimes et les lui fait escalader. Sur le plan littéraire, il n'est point négligeable que Rimbaud ait exercé sur le vieux, comme il l'appelle, une pareille tyrannie. D'ailleurs, le vieux y consent. Mais Mathilde, direz-vous, et l'enfant. Verlaine n'en a cure. Il les rejette, il les sacrifie à Rimbaud, qui, dans une saison en enfer, lui fait dire « Mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis. Lui était presque un enfant. Cette délicatesse mystérieuse m'avait séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Je vais où il va. Il le faut. Et souvent, il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez. Ce n'est pas un homme. Je l'écoute, faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine. Mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. Je me ferai des entailles par tout le corps. Je me tatouerai. Je veux devenir hideux comme un mongol. Tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux. Je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrai tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent ivres, il se poste dans les rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. Oh, me coupera vraiment le cou, ce sera dégoûtant. Au séjour, où il veut marcher avec l'air du crime. Drôle de ménage, évidemment. Quant à l'autre, celui de Mathilde de Paul, le ménage légal. Voici des précisions. Depuis un an, déclare Mathilde en octobre 1872, dans sa demande de séparation de corps au président du tribunal, la connaissance d'un sieur Arthur Rimbaud, jeune homme de 18 ans, avait exercé sur Verlaine la plus fâcheuse influence et l'effet de la plus monstrueuse immoralité, je cite le texte, avait été révélé à l'épouse ingénue qui, elle en convient sans fausse honte, n'avait pas complètement compris la nature des relations existantes entre les deux hommes. J'ai tenu dans les mains le dossier du divorce. Une première fois, au mois de février 1872, y est-il mentionné, Madame Verlaine, pour échapper aux violences de son mari, avait commencé contre lui une demande de séparation. Toutefois, sur les promesses de ce dernier, elle avait consenti à ne pas la suivre. Or, elle avait été bientôt non seulement en butte à de nouvelles brutalités, mais encore, après avoir tout tenté pour arracher son mari à la funeste domination de Rimbaud, elle avait eu à subir la révélation de faits, elle insiste, d'immoralités les plus monstrueux. L'allusion n'est que trop claire à plusieurs lettres d'Arthur, tellement étranges, que Mathilde découvrit dans les papiers de Paul qu'elles étaient écrites par un fou. J'avais exigé le renvoi de Rimbaud, précise Mathilde, et Verlaine, forcée de céder par la crainte d'une séparation, m'écrivit que son ami avait quitté Paris et ne reviendrait plus. Mais en même temps, il écrivait à celui-ci de patienter, que c'était à regret qu'il l'avait éloigné, et qu'aussitôt mon retour, il le ferait revenir. Or, Verlaine venait à peine de publier la bonne chanson.
Le foyer, la lueur étroite de la lampe, la rêverie avec un doigt contre la tempe, et les yeux se perdant parmi les yeux aimés, l'heure du thé fumant et des livres fermés, la douceur de sentir la fin de la soirée, la fatigue charmante et l'attente adorée de l'ombre nuptiale et de la douce nuit. Oh, tout cela, mon rêve attendri le poursuit sans relâche à travers toute remise vaine, impatient des mois, furieux des semaines.
Et Rimbaud composait ces strophes.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus les longs angélus se sont tus, sur la nature défleurie faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyez. N'est-ce pas l'hiver pour que chaque passant repense? Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais, saint du ciel, en haut du chêne, m'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaînent, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir.
Il semble donc à première vue qu'aucune affinité n'existe entre ces deux natures. Mais il est évident que si l'une, quelques jours, doit agir sur l'autre et la marquer profondément, ce n'est point celle de Verlaine qui risque d'y parvenir. En effet, on résiste mal à l'espèce d'envoûtement qui se dégage des moindres poèmes de Rimbaud, et nous devons admettre qu'il en allait de même de sa personne. Rimbaud n'a pourtant jamais été sympathique aux amis de Verlaine. Edmond Le Peltier, qui rédigeait au Peuple Souverain la critique d'art dramatique, commente ainsi l'exhibition des deux amis dans les couloirs d'un théâtre. À la première représentation du bois, idylle en un acte et en vers, d'Albert Glatigny, tout le Parnasse était au complet, circulant et devisant au foyer. Le poète saturnal Paul Verlaine donnait le bras à une charmante personne, Mademoiselle Rimbaud. Ni l'un ni l'autre ne s'étaient couchés la nuit précédente, et leurs souliers boueux, leurs vêtements fripés, autant que l'expression de leur visage hébété par l'alcool, avaient scandalisé les spectateurs. Quant à Mathilde, on la plaignait d'être l'épouse d'un être si veule, presque inconscient, et bien qu'elle sortît peu depuis ses couches, on lui reprochait de ne point s'opposer avec plus d'énergie à l'influence qu'Arthur prenait de jour en jour sur son mari. Pourtant, le 13 janvier 1872, à la suite d'une scène survenue à propos d'une tasse de café qu'il n'avait pas jugée suffisamment chaude, Verlaine, retient l'Allemand dans séparation, déclara qu'il descendait en prendre une autre ailleurs. Comme Madame Verlaine ne répondait pas, « Ton calme, s'écria-t-il, ton sang-froid m'exaspère. Je veux en finir. » Passant alors au paroxysme de la furie, il saisit son enfant et le jeta violemment sur le lit au risque de le tuer. Puis, agrippant sa femme par les poignets qu'il déchira avec ses ongles, il se précipita sur elle et lui serra le cou pour l'étouffer. Or, Rimbaud, loin de se livrer à de pareilles violences dont il était sournoisement l'instigateur, conservait sa sérénité, comme en témoigne cette strophe. L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, l'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins, la mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles et l'homme saignait noir à ton flanc souverain. Cela n'arrangeait point les choses, Rudy Collet. Mathilde avait quitté Paris avec son père. À son retour, Paul, l'ayant supplié de renoncer au divorce, elle avait consenti à retirer sa demande, mais les brutalités recommencèrent immédiatement. Enfin, nous arrivons au 7 juillet. Mathilde était au lit, malade. Verlaine, écrit l'infortuné dans ses mémoires, parut attristé de me voir souffrante et me dit qu'en se rendant à son bureau, il passerait chez le docteur Antoine Cross et me l'enverrait. Nous n'avions eu la veille aucune querelle. Mon mari m'embrassa affectueusement. Il ne devait plus revenir. On apprit par la suite que ce jour-là, Rimbaud, qui descendait de Montmartre, rencontra Paul rue Nicolet. « Où vas-tu donc ?» demanda Arthur. « Et toi ?»« Je pars, je quitte Paris. » Il n'en fallut pas davantage. Tous deux allèrent boire un verre chez le premier maçon qui est venu, puis Paul, suivant Arthur, s'éloigna par la route à pied, en direction de Bruxelles. Ma pauvre Mathilde prit-il pourtant la peine de griffonner sur un morceau de papier à l'adresse de sa femme. « N'aie pas de chagrin, ne pleure pas. Je fais un mauvais rêve, je reviendrai un jour. » Montait-il, était-il sincère? Ce sonnet qu'il troussa sur un coin de table prouverait au moins que l'aventure commençait bien.
Mur blanc, toit rouge. C'est l'auberge fraîche au bord du grand chemin poudreux où le pied brûle et saigne. L'auberge gaie avec le bonheur pour enseigne. Vin bleu, pain tendre et pas besoin de passeport. Là l'on fume, ici l'on chante, ici l'on dort. L'hôte est un vieux soldat et l'hôtesse qui peigne et lave 10 marmots roses et pleins de teigne parle d'amour, de joie et d'aise et n'a pas tort. La salle au noir plafond de poutre, aux images violentes, Malek Adel et les rois mages, vous accueillent d'un bon parfum de soupe aux choux. Entendez-vous? C'est la marmite qu'accompagne l'horloge du tic-tac allègre de son pouls. Et la fenêtre s'ouvre au loin sur la campagne.
C'était Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, premier, deuxième et troisième volet d'une série de 8 émissions proposée par Francis Carco, réalisée par Albert Riera et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale les 1er, 8 et 15 mars 1951.